Bonjour à tous. Bonjour Rosie. Bonjour Lalande. Landry. Bonjour Jean-Gilbert. Bonjour aux amis. J'espère que vous allez bien. Je vais juste vérifier si mon micro fonctionne adéquatement. Voilà. Oui, ça semble bien fonctionner. On va juste le large un peu voile. OK. Alors à tous, on vous souhaite un bon lundi 13 septembre 2021. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Alors, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Sûrement chargé, il faisait quand même beau ce week-end. L'automne arrive bientôt. En fait, on est à 11 jours environ de l'automne. Ou du début officiel de l'automne. Bonjour Immaculée, que Dieu vous bénisse. Bonjour Guy, que Dieu te bénisse. Bienvenue parmi nous ce matin encore. Alors, je suis encore à la maison aujourd'hui. Parce que j'ai des rendez-vous dans l'ouest de l'île. En fait, plusieurs rendez-vous dans l'ouest de l'île cette semaine. Donc, je pensais faire les bénédictions matinales depuis l'église, mais ça impliquerait pratiquement des va-et-vient un peu lourds. Bonjour à ma belle-mère. Bonjour à Sylvie. Je la bénis, hermana Flori. Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour à la sœur Rachel et aux sœurs qui se connectent avec elle, donc la sœur Auxilia, la sœur Mona, la sœur Chantal, bien bonjour. Alors vous entendez Néma qui est en train de boire. Elle va me vider sa gamelle. En tout cas, elle semble motivé pour le faire. Hello Sylvia, God bless you. Greetings to Pastor David also. Donc cette semaine, on continue notre étude du chapitre 13 de Jean. On n'avait pas tout terminé la semaine dernière. Bonjour Sylvia. On s'excuse s'il y a un peu de bruit. Il y a des tracteurs qui roulent devant la maison, qui avance, qui recule, qui transporte des choses. Donc, on s'excuse du bruit ambiant si ça se perçoit à la caméra ou à l'écran plutôt, au micro plutôt. Emma, elle prend ses gâteries et après ça, il faut qu'elle aille vider la gamelle d'eau. Bonjour Lucie, soyez bénie, bienvenue parmi nous. Merci la belle-mère. Vous pouvez déjà ouvrir vos bibles dans Jean 13, puisque vous savez que c'est le passage qu'on étudie encore cette semaine. Bonjour Thérèse. Salut Daniel, content de t'avoir avec nous ce matin, sois béni. Aussi bizarre que ça puisse paraître pour plusieurs, c'est mon simplement deuxième café ou la deuxième dose de café de ce matin. J'ai pris un seul petit café ce matin à 5 heures. Alors celui-ci est bien agréable. Salut Jane, que Dieu te bénisse. Bien le bonjour à Sydney. Bonjour Denise, bonjour Gérard, soyez bénis. Bonjour Denise, que Dieu vous bénisse. Alors hier, vous avez eu la visite surprise du pasteur Sergio à l'église de Deux-Montagnes. Le pasteur Thévenot nous a contactés le matin pour nous dire qu'il avait une extinction de voix. Donc on a dépêché, en fait, ça allait être soit le pasteur Sergio ou moi qui allions nous rendre là-bas, mais le pasteur Sergio a été capable de se libérer pour aller vous visiter. On espère que vous avez eu du bon temps avec lui. Encore 3 minutes environ avant qu'on ne débute officiellement pour ce matin. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent via la page Internet de l'Église ou via directement une connexion passée depuis les moteurs de recherche traditionnels. Donc, ce faisant, vos noms n'apparaissent pas, mais on sait que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse et bienvenue parmi nous. Bonjour aussi à ceux qui se connectent plus tard, qui regardent l'enseignement différé. Bien heureux de vous avoir avec nous aussi. Donc ce matin, en ce lundi 13 septembre, on continue notre étude sur Jean au chapitre 13. Et on va lire tout à l'heure les derniers versets du verset 33 à 38. Ce ne sera pas notre dernière étude du passage, mais on va prendre un temps ce matin dans les derniers versets. Alors, on va prier pour débuter et puis après ça, on va faire la lecture. Alors, merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes pour débuter la semaine d'une bonne manière, la débutant Seigneur dans ta parole, dans l'étude de celle-ci, sachant Seigneur que ta parole nous transmet ta sagesse, nous transmet Seigneur ta connaissance, tes projets, tes plans, tes desseins pour nous. Donc nous demandons Seigneur que tu puisses nous parler ce matin, que ta grâce Seigneur nous soit accordée et que tu nous permettes Seigneur de saisir cette pensée que tu avais pour nous de toute éternité, que tu voulais partager avec nous depuis toujours. Nous te demandons Seigneur que cette parole trouve un cœur qui t'est complètement acquis, qui t'est dévoué et un cœur Seigneur qui est prêt à mettre en branle, Seigneur, tout ce qui doit être activé dans notre vie pour que ta parole, Seigneur Jésus, puisse produire un fruit, un profond, un fruit agréable, un fruit qui dure jusqu'à l'éternité. Alors, en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Jean 13, et ce matin, on lit les versets 33 à 38. J'allais le lire à l'écran, mais je pense que ça serait mieux si j'y allais avec ma Bible et mes lunettes. Donc, Jean 13, du verset 33 à 38. La Bible nous dit « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pourrez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais. » Mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. Alors que Dieu puisse bénir sa parole ce matin. Assurément, ce passage contient un des versets les plus populaires du Nouveau Testament. Lorsque Jésus dit à ses disciples, « Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aussi aimé. » Et ça, on va l'étudier un peu plus tard cette semaine. Aujourd'hui, ce que j'aimerais aborder, c'est la question ou le fait que personne ne pouvait suivre Jésus. Jésus va dresser un constat assez clair. Il va dire, j'ai déjà annoncé aux Juifs qu'ils ne pouvaient pas venir avec moi. Et ça se retrouve dans Jean au chapitre 8, le verset 1. Mais ici, Jésus y fait référence en disant, voici, je l'ai déjà dit aux Juifs, maintenant je vous le dis à vous aussi, vous ne pouvez pas aller où je vais. Donc, non seulement les Juifs ne peuvent pas y aller, non seulement les disciples ne peuvent pas aller, mais de surcroît à cela, Pierre, pour le moment du moins, ne peut pas y aller non plus. Et Pierre, parmi tous les disciples, est probablement celui qui est le plus près de Jésus, en dépit de ses sautes d'humeur, en dépit du tempérament intempestif de Pierre. Il explose facilement, il s'emballe facilement, il plonge aussi facilement. Ça reste que parmi tous les disciples qui ont côtoyé Jésus un minimum de 3 ans, parmi les très très proches, on retrouve Pierre à l'avant-poste. Pierre, Jean, puis Jacques et André, qui sont probablement le quatuor le plus près de Jésus dans les différents événements que Jésus va traverser, où il est devant un groupe plus restreint, on rencontre toujours Pierre. Et on voit régulièrement des conversations qui nous sont rapportées entre Pierre et le Seigneur. Mais même ce Pierre qui est apprécié et qui va être important dans l'histoire de l'Église, Jésus lui dit à lui aussi que non, pour l'instant, tu peux pas venir avec moi. Et la question, c'est, mais où s'en va Jésus? En fait, la réponse est toute simple et vous la connaissez. Jésus va à la croix, à cet endroit où la Bible nous dit, et ça nous le dit au début du chapitre 13, que Jésus mit le comble à son amour. Et dans le comble ou dans le maximum de l'amour que Jésus manifeste envers ses disciples, il y a effectivement l'apothéose qui se trouve à travers sa mort à la croix. C'est effectivement la manifestation la plus grandiose de l'amour de Dieu envers l'humanité et envers nous, ses enfants. Bien entendu, si on dit apothéose ou grandiose, on doit aussi dire tout le caractère terrible de la manifestation de cet amour. Parce qu'effectivement, Jésus, saint, pur, innocent, juste en toute chose, va malgré tout accepter le blâme, accepter la culpabilité de nos péchés, de notre iniquité, et mourir comme un vulgaire brigand, comme un vulgaire meurtrier, à la croix. Et cela, il le fait en l'acceptant, en décidant de subir cet outrage par amour pour toi et pour moi. Alors effectivement, on ne pouvait pas aller où Jésus allait. Pourquoi toutes ces personnes-là ne peuvent-elles pas aller où Jésus va? Lorsqu'on parle des Juifs, bien entendu, et que, mais disons que si on dit que l'amour était ce qui faisait bouger, agir et accepter la souffrance pour Jésus, bien entendu, lorsqu'on pense aux Juifs de l'époque, du moins, qui nous sont mentionnés, il y a très peu de grâce, très peu d'amour, très peu de compassion qui sont manifestées. On peut le voir lorsque les Juifs jugent la femme adultère et que ce qu'ils s'apprêtent à faire, c'est de la lapider. De surcroît à cela, lorsque Jésus va témoigner dans une synagogue aussi, les Juifs vont être prêts à le lapider aussi. Et la Bible nous dit que Jésus va être capable de se frayer un chemin et de sortir de parmi eux, mais qu'à la base, ces Juifs étaient prêts à le lapider. Donc, les Juifs n'étaient pas prompts au pardon, n'étaient pas prompts à l'amour et ne pouvaient donc pas suivre le même chemin que Jésus, chemin, bien entendu, qui était ouvert, aplani par l'amour du Christ à notre égard et à l'égard de ses contemporains. Lorsqu'on parle des disciples qui ne pouvaient pas suivre Jésus, on en a une panoplie d'exemples, notamment dans Jean au chapitre 22. On va se rendre compte qu'ils se disputent à savoir qui est le plus grand. lorsque la Bible va utiliser le terme qu'ils discutaient ou qu'ils parlaient pour savoir qui était le plus grand parmi eux, en fait, le terme grec qui est utilisé parle d'une dispute. Donc, les gens étaient en train de se dire, nous sommes disciples de Jésus, effectivement, on l'est tous, mais moi, je suis plus grand que toi, ou moi, je mérite d'être plus grand que toi à cause de ceci, à cause de cela, que ce soit parce que j'ai été le premier qui a été appelé, que ce soit parce que il a fait tellement de changements dans ma vie, ou que ce soit parce que moi, je le sers de telle manière actuellement, ou que ce soit à cause du rang social qu'on avait auparavant. Les disciples, dans Luc au chapitre 22, se disputent pour savoir qui sera le plus grand. Dans Jean 13, on se rend compte que Jésus est obligé d'enseigner l'humilité à travers le lavement des pieds à ses disciples. On aurait cru qu'après 3 ans de vie, à proximité, en intimité avec le Seigneur, ils auraient compris, ils auraient su comment agir, comment fonctionner. Et là encore, à la veille de l'arrestation de Jésus, on se rend compte qu'ils ont encore à apprendre, à être enseignés concernant l'humilité. Concernant l'humilité dans le service, concernant l'humilité même dans le leadership, puisque c'est ce que Jésus va enseigner notamment à travers le lavement des pieds. Il va aussi leur faire un enseignement sur l'amour. Dans le verset 34 et 35, Jésus leur parle, et on a cité le verset tout à l'heure, « Aimez-vous les uns les autres ». Si Jésus donne cet enseignement aux disciples, c'est donc parce que les disciples en ont besoin. Jésus ne fait pas que meubler une conversation. C'est pas comme s'il y avait un temps silencieux, un temps vide, que Jésus se dit « Bon, ben, je vais sortir une belle phrase qui sera publiée à travers les années et puis on va se rappeler de moi pour cette phrase-là. » Non, lorsque Jésus parle, lorsque Jésus enseigne, c'est parce qu'effectivement, les gens ont besoin de cet enseignement. Alors, les disciples qui se disputent pour savoir qui est le plus grand, ces disciples qui ne veulent pas aucun d'entre eux s'abaisser pour être le plus bas parmi la cohorte et laver les pieds des autres, ces disciples-là ont aussi besoin d'être enseignés sur l'amour, ont aussi besoin d'être enseignés sur la grâce que Jésus veut partager, que Jésus va partager à travers sa mort à la croix. Juste un petit nettoyage, quelqu'un qui commence à contacter les gens directement et elle le fait très mal. Voilà. Donc, Jésus va enseigner à ses disciples l'amour. Donc, manque d'amour, manque d'humilité font en sorte que les disciples ne peuvent pas suivre Jésus là où il va. Lorsqu'on parle de Pierre, on parle de quelqu'un qui va tenter de sauver sa vie en reniant son maître. Lorsqu'on arrive dans ce passage tout particulier où on parle du reniement de Jésus, on se rend compte qu'au début, Pierre rentre dans le jardin parce que quelqu'un l'a précédé, on pense que c'est Jean qui l'a précédé là-bas et qui a dit « Ben, vous pouvez laisser rentrer Pierre parce que on le connaît. » Donc, Pierre rentre et là, il commence à être identifié. « Hey, tu parles comme eux. Hey, t'es galiléen toi aussi. Hey, tu te comportes comme lui. » Donc, assurément, t'es un de ses disciples. Et Pierre, sentant la soupe chaude, va commencer à essayer de se distancer un maximum de Jésus. Donc, tout d'abord, c'est en répondant que non, il ne l'est pas, que non, il ne sait pas qui est ce Jésus, que les gens se trompent. Mais après ça, Pierre va même aller utiliser ce qu'on appelle ici au Québec, des sacres, donc des mots blasphématoires, va utiliser des gros mots, des jurons qu'il va utiliser en se disant, mais je vais mal parler, Je vais mal me comporter pour que les gens ne puissent pas m'identifier avec lui. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il sait que son Jésus, son maître, s'en va directement à la croix et directement à la mort. Et lui, pour sauver sa peau, va essayer de se distancer de ce Jésus, va essayer de se distancer de son maître, même si quelques heures auparavant, il a dit qu'il l'aimait. Alors, n'étant pas capable de le suivre comme il l'avait pourtant promis ou comme il avait pourtant émis la possibilité qu'il le suivrait jusqu'à la mort, on se rend compte qu'effectivement, se sauver la peau aurait été plus important pour lui que d'aller sur ce chemin avec son maître. Donc, aucun ne pouvait aller avec Jésus. Et assurément, il en est de même pour toi et pour moi. Pierre est l'exemple majestueux, ou l'exemple parfait plutôt, de plusieurs chrétiens qui s'estiment un peu trop solides, un peu trop forts, un peu trop bien. De tous ces chrétiens qui se disent « Mais moi, je ne tomberais pas dans le panneau si j'étais placé dans une même situation. » On se dit tous, et hier j'avais l'occasion d'en parler, vous savez combien j'aime l'Église martyre, combien mon cœur est attaché à l'Église martyre, et on se dit tous que si on était dans une telle situation, on ne réagirait pas autrement qu'en confirmant notre allégeance à Jésus. Si quelqu'un rentrait chez nous, pointait une arme à notre encontre, on se dit tous que oui, je mourrais à ce moment-là, je ne renierais pas mon Seigneur. Ça, tu peux l'affirmer maintenant. Dieu sait la vérité. Dieu sait effectivement si tu en es capable ou pas. Dieu sait jusqu'à quel point tu es lié à lui. Mais toi, tu ne le sauras que lorsque la chose se produira, si la chose se produit. Mais chose certaine, aucun d'entre nous n'est digne de suivre Jésus. Alors, que va-t-il se passer pour que Pierre, à qui Jésus dit « Tu ne peux pas me suivre maintenant », que va-t-il se passer pour que Pierre, éventuellement, puisse suivre Jésus, puisse aller là où Jésus va? Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux endroits-là? Dans le chapitre 13 de Jean, Jésus lui dit « T'es pas capable de me suivre ». Et plus tard, Jésus va lui dire « Paie mes brebis, prends soin de mes brebis, fais paître le troupeau que je vais placer entre tes mains ». Alors comment Pierre, qui n'était pas fiable, va-t-il devenir fiable quelques jours, quelques semaines plus tard? Que va-t-il se passer entre les deux choses? En fait, ce qui va se passer entre les deux choses, ce n'est rien d'autre que la mort de Jésus. La mort de Jésus vient marquer un point tournant dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans l'histoire de Pierre lui-même. La mort de Jésus fait quoi? La mort de Jésus vient pardonner. À travers la mort de Jésus, on réalise le pardon qui nous est accordé. Et on ne peut pas accorder le pardon aux autres si on n'a pas pleinement réalisé et expérimenté le pardon de Christ pour notre propre vie. Si je ne comprends pas que je suis condamné, si je ne comprends pas que mon péché me condamne dûment, c'est pas comme si Jésus qui va à la croix, qui lui est condamné, mais n'aurait pas dû être condamné. Dans ton cas et dans mon cas, un peu comme un des brigands va dire en défendant Jésus, vous vous rappelez cette histoire, Jésus est accroché à la croix depuis déjà un moment, les gens sont en train de se moquer de lui, la foule est en train de le haranguer, et on a un des brigands qui se tourne vers Jésus, puis il lui dit, « Hey, si tu es le Fils de Dieu, ben délivre-toi, puis délivre-nous aussi. Descends de la croix, puis fais-nous descendre à nous aussi. » Et ce faisant, ce brigand qui est condamné à juste titre, ce brigand qui s'apprête à mourir, la chose qu'il trouve intéressante à faire, c'est de s'unir à la foule et de blasphémé, de parler mal contre Jésus. En contrepartie, on a l'autre brigand de l'autre côté de Jésus qui s'interpose en disant « Hey, tais-toi! Toi et moi, on ne reçoit que ce qu'on mérite. » Mais lui n'a rien fait. Alors, ce brigand-là comprend ce qui se passe, comprend qui est Jésus, comprend l'outrage qui est fait, et il dit à Jésus, « Quand tu seras dans le ciel, rappelle-toi de moi. » Et Jésus va lui dire que de ne pas s'inquiéter, qu'effectivement, il aura une place près de lui. On ne peut pas expérimenter ou on ne peut pas manifester le pardon à moins que nous aussi, on ait dûment expérimenté le pardon. Il y a ce cantique qu'on chantait autrefois qui disait que la grâce a fait couler le sang. Et que là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Ce que veut dire ce cantique foncièrement, c'est que là où moi j'ai reçu la grâce à cause de mon péché, là aussi cette grâce, je vais l'exprimer. Le passage où Paul est en train de dire que il y a des gens qui se sont opposés à lui, certains pensent que c'est une maladie sur laquelle il est en train de parler, mais on parle plutôt d'affliction, un agent du diable qui est venu pour le souffleter. Donc quelqu'un qui est bougé par le diable, qui est mu par le diable pour venir s'opposer à Paul. Et le Seigneur va dire à Paul, « Ma grâce te suffit. Cette même grâce que tu as expérimentée, utilise-la pour l'autre. » Et nous, en tant que croyants, effectivement, on ne sera capable de manifester le pardon et de manifester la grâce que si nous réalisons nous-mêmes la grâce qui nous a été pardonnée. Donc, Pierre va être capable de suivre Jésus ultérieurement parce que lui aussi a été pardonné. Pierre sera capable de pardonner parce que lui-même a été pardonné. Nous serons capables de suivre Jésus dans le pardon et réalisons une chose, la croix, le calvaire, c'est la manifestation publique du pardon qui nous est accessible à travers la mort de Christ. Alors plus je réalise combien j'ai été pardonné, plus je suis capable d'aller dans une vie moi aussi d'abnégation, comme Jésus m'en a donné l'exemple, plus je réalise combien j'ai été gracié, plus je suis en mesure d'aller dans ce même chemin de grâce, de pardon et de deuxième chance à ceux qui nous ont offensés. De surcroît à cela, puisqu'on disait tout à l'heure que les disciples ne pouvaient pas suivre Jésus parce que ils ne connaissaient pas l'humilité ou ils n'avaient pas appris l'humilité, on doit comprendre une chose aussi. On ne peut s'humilier, on ne peut avoir la capacité de s'humilier que lorsque on comprend l'humiliation que Christ a subie à cause de nous. Lorsque je réalise que Jésus a été honteusement bafoué, honteusement rejeté, honteusement accusé, et que tout ça, il l'a subi à cause de moi, ça devrait amener une grosse dose d'humilité dans ma vie. Trop souvent, on comprend l'outrage qu'on a fait à Jésus, mais on dirait qu'à un moment donné, on perd la notion de ce qu'il a fait pour nous. C'est comme, ah oui, mais là, Jésus nous a aimés, et puis maintenant, on est des grands quelqu'un. Jésus nous a aimés, il nous a restaurés. Et c'est vrai, tu deviens un fils du roi, une fille du roi, tu deviens un enfant de Dieu, un enfant du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, et c'est majestueux comme rang. Mais ce rang-là, tu l'as eu pourquoi? Tu l'as eu comment? Tu l'as eu parce que Jésus a été humilié à cause de toi. Tu as reçu cette grâce de devenir enfant de Dieu parce que Jésus a accepté de prendre l'humiliation de ton péché sur ses épaules. Et ça, on ne devrait pas l'oublier. Vous savez, lorsque quelque chose nous est donné par grâce et non par mérite, on reste foncièrement humble face à cette grâce. Et par rapport à notre statut d'enfant de Dieu, oui, on peut s'en réjouir, mais réjouissons-nous avec une combinaison profonde d'humilité. Je vous ai répété à maintes reprises, et maintenant vous connaissez ma pensée là-dessus, je serai toujours un gracier. Pour toute l'éternité, je serai un gracier. Je ne veux pas oublier que je suis un gracier, parce que je ne veux pas mépriser ce que Jésus a eu à subir à cause de moi. Je ne veux pas mépriser ce que Jésus a fait pour moi. Je ne mérite pas son pardon. Je ne mérite pas sa grâce par moi-même. Tout ce que j'ai reçu, c'est par grâce. Tout ce que j'ai reçu, c'est en dépit de ma faute et de mon iniquité. Et oui, aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Oui, aujourd'hui, je suis un enfant du roi des rois. Oui, aujourd'hui, je fais partie de la famille royale. Mais je n'oublierai jamais comment j'ai accédé à la famille royale. Et j'ai accédé à cette famille royale parce que Christ a bien accepté et a bien voulu pardonner ma faute. Voyez, les chrétiens devraient être foncièrement les personnes les plus humbles qui soient. C'est pas logique qu'un chrétien soit orgueilleux. C'est pas logique qu'un chrétien vive dans un orgueil viscéral. C'est pas logique qu'un chrétien vive sans humilité, que ce ne soit pas une des caractéristiques premières du croyant. Notre vie ayant été transformée par la grâce de Jésus, nous devrions avoir cette sagesse, cette logique d'être humble. Alors notre capacité à nous humilier, notre capacité à rester dans l'humilité, nous vient de Christ qui a été humilié à cause de nous. Enfin, quand on dit que Pierre ne pouvait pas suivre Jésus parce qu'il préférait sauver sa vie, et c'est un fait, notre capacité à donner notre vie pour Christ ne va venir que de notre compréhension du prix qu'il a eu à payer pour nous, mais d'une compréhension profonde et viscérale, pas juste une compréhension intellectuelle. Il y a ce sentiment que la grâce doit susciter en moi de redevance, de devoir, d'avoir une dette envers Jésus, une dette qu'on ne pourra jamais payer, une dette qu'on ne pourra jamais rembourser. On ne sera jamais libre du prix qu'il a eu à payer pour nous. Mais ça doit nous habiter jusqu'au plus profond des tripes, jusqu'au plus profond de notre âme, de notre esprit. Nos actions de tous les jours devraient être empreintes de ce sentiment que j'ai été gracié par la mort de Jésus. Et lorsque quelqu'un a donné sa vie pour nous, très souvent, on lui consacre notre vie. Lorsque des médecins font quelque chose pour toi, tu leur es redevable. Et très souvent, tu te rappelles du nom de ce médecin qui t'a traité. Même des années, voire des décennies plus tard, tu te rappelles encore du nom de ce médecin. C'est pas un grand cas, mais j'ai eu un pédiatre à l'époque, on habitait Longueuil, je me rappelle qu'on avait la clinique médicale au métro Longueuil, et lorsque, à l'occasion, j'étais malade, ma mère ou mon père m'amenait donc à la clinique médicale voir le pédiatre, et je me rappelle encore du nom de ce pédiatre, alors que j'avais 7, 8, 9 ans par là, mais je me rappelle encore, et j'ai vu ce pédiatre quoi, 3, 4 fois maximum, c'était le docteur Tweed, et je me rappelle du nom de ce médecin. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait du bien. Alors pensez à Christ qui nous fait du bien, qui nous a fait du bien. Lorsqu'on comprend qu'il a donné sa vie pour nous, si on le comprend du plus profond de notre être, nous n'aurons à ce moment-là plus aucun malaise, plus aucune réticence à offrir nos vies en partage pour Christ. Pierre, ce qui l'a transformé entre Jean 13 et la fin de l'Épître, lorsque Jésus va dire, allez dire à Pierre que je l'attends en Galilée avec les autres et que Jésus va lui dire par la suite, paie mes brebis, je te confie mon troupeau, prends soin du troupeau que j'ai placé entre tes mains. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est la croix de Christ. Et la croix de Christ ne devrait pas nous laisser insensibles. La croix de Christ ne devrait pas nous laisser sans nous avoir transformés, sans nous transformer encore. La pensée de la croix de Christ devrait encore aujourd'hui avoir son plein effet. La pensée de la croix de Christ et la mort de Christ à la croix devrait pour l'éternité nous émouvoir, nous adoucir, nous rendre humbles, favoriser l'amour et la grâce dans notre vie, en sachant que nous-mêmes qui méritions la mort à cause de nos offenses, nous avons été sauvés parce que Christ, le Sauveur, le Messie, Christ, Saint des Saints, a accepté de mourir et de prendre l'humiliation de mon péché et de mon iniquité sur lui. On ne pouvait pas suivre Jésus. On ne pouvait pas aller là où il allait, parce que c'était un chemin qui impliquait du pardon, parce que c'était un chemin qui impliquait de l'humilité, parce que c'était un chemin qui impliquait le don profond et total de soi. Mais quand je réalise ce que Jésus a fait pour moi, et que je le réalise avec toutes les fibres de mon corps et avec toutes les parties de mon être, je ne peux avoir qu'une seule réponse envers lui. Moi aussi, pardonner à ceux qui m'ont offensé. Être humble, m'abaisser pour que lui s'élève et lui donner toute ma vie. Pensez à cette femme qui, quelques jours avant la mort de Jésus, va venir avec un pot d'albâtre rempli d'un parfum de nard qui est très coûteux, qu'on réserve habituellement pour les sépultures les plus nobles, les plus dignes de mention. Et là, elle vient verser ce parfum sur Jésus. Elle vient pleurer aux pieds de Jésus. Elle fait tout ça en s'humiliant, en s'abaissant, et Jésus va en faire la remarque. Parce qu'elle a été pardonnée, elle sait de quoi elle a été pardonnée. Est-ce que tu te rappelles encore de quoi tu as été pardonné? Est-ce que ce rappel est si profondément ancré dans ta vie que tes actions quotidiennes, que toutes tes actions, toutes tes pensées, que ta vie elle-même est mue, est transportée, est transformée par cette pensée de Christ, mort pour mon péché, mort pour mon iniquité. J'en reste humble. Son amour gagne mon cœur et cette reconnaissance fait en sorte que moi aussi, je veux aimer comme il a aimé. Et je suis prêt à mettre ma vie entre ses mains parce que lui a mis sa vie à la croix pour moi. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. C'est un sujet qui me touche, qui m'émeut. J'espère qu'il en est de même pour vous. Prions. Seigneur, ce matin, on se rappelle ce que tu as fait pour nous. On se rappelle ta grâce, ton pardon. Seigneur, ce n'est pas un fait historique. C'est un fait tangible, factuel dans notre vie. Seigneur, lorsque je reconnais mon péché, même si je veux œuvrer pour toi, même si je veux travailler pour toi, la première réaction, c'est de te dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à accepter l'humiliation de la croix pour nous, pour moi. Mon péché t'a envoyé à la croix. Mon péché a cloué tes mains, a percé tes pieds, a troué ton front de ses épines, a percé ton côté de cette lance. C'est mon péché, mon iniquité qui t'ont accroché à la croix. Et lorsque je reconnais ça, Seigneur, je ne peux qu'être humble. Je n'ai aucun mérite de ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai aucun mérite d'être fils du roi, fille du roi. On n'a aucun mérite. Tout cela est par ta grâce et simplement ta grâce. Seigneur, lorsqu'on reconnaît ce que tu as fait pour nous, on ne peut alors pas priver les autres du pardon, puisque toi, tu nous as pardonnés. Puisque toi, tu nous as aimés, on ne peut pas priver les autres d'une manifestation d'amour, d'affection, de compassion. Parce que nous-mêmes, on l'a reçu de ta part alors qu'on ne le méritait pas. Seigneur, lorsqu'on sait que tu as donné ta vie pour nous, est-ce qu'on peut faire autre chose que de donner notre vie pour toi? Seigneur, je prie que ton onction touche mon frère et ma sœur aujourd'hui et que tu parles au cœur. Seigneur, il y a eu un avant et un après pour Pierre. Je prie qu'il en soit de même pour nous. Que cette parole de ce matin marque un tournant profond dans notre attitude, dans notre façon d'être, dans nos agissements, dans notre engagement, dans notre dévouement à ton égard. Nous voulons te suivre parce qu'il n'y a aucun autre endroit où aller, sinon qu'auprès de celui qui nous a aimés, de celui qui nous a pardonnés, de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Merci Seigneur. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Simplement vous rappeler que les inscriptions en cours pour l'assemblée de dimanche. On espère vous voir en grand nombre. Vous pouvez vous inscrire par courriel ou en laissant un message vocal sur la boîte téléphonique de l'Église. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que sa parole puisse revenir dans vos pensées aujourd'hui, que vos actions, que votre planning même de la journée soit chamboulé par la parole et les mots de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.